Chers amis, bonjour, merci de nous écouter sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, le 90.7. Et puis, vous savez que vous pouvez toujours nous écouter si vous quittez notre chère et belle Lorraine, si vous voulez faire profiter, oh le petit chat dans la gorge, vos amis de nos émissions. Voilà, le chat, je l'expulse et puis je reprends. Si vous voulez faire profiter vos amis de nos émissions, eh bien, www.rcn-radio.org. Je recommence, le www.rcn-radio.org, notre site qui vous permet de nous écouter loin de chez nous, en direct, et également d'accéder à nos podcasts. Voilà, enfin, ça veut dire tout simplement que les émissions, vous pouvez les réécouter quand vous voulez, alors que vous voulez. Elles sont, grâce à nos amis techniciens, installées sur notre site, et puis, eh bien, vous prenez votre choix pour nous écouter. Les émissions qui y sont passées, tout ça, vous trouvez ça sur ce super site réalisé par l'ami Raphaël Pora. Aujourd'hui à la technique, eh bien, il y a notre ami Mathieu Grandpierre qui est derrière ces petits boutons. Et grâce à lui, eh bien, vous aurez un son impeccable, même quand je tousse. Je ne suis pas tout seul, je l'ai retrouvé, donc ça faisait presque un mois qu'on ne s'était pas revu. J'ai retrouvé ma copine, j'ai retrouvé mon amie Christine Léninger, qui va m'aider, à discuter, à interviewer l'écrivain que je reçois aujourd'hui, Raymond Hiss. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour.
Alors Raymond est déjà venu nous voir, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que il n'hésite pas à se lancer des défis. Il y a quelque temps, il était venu nous voir pour deux romans. Moi, j'avais toujours cru qu'il était un peu autobiographique, mais en fait, oui, il y a un petit peu de Raymond dedans. Les passantes des quatre saisons. On était dans un milieu universitaire de jeunes gens, on était à Strasbourg, hein, c'est ça ?
Oui, ça se passait dans les années 60, donc c'est ce que j'ai écrit dans un article sur mon site Facebook. Je croyais avoir fait quelque chose d'autobiographique, et en fait, très vite, j'ai dérivé, et j'ai construit des personnages totalement imaginaires, en assemblant des éléments de différentes personnes que j'ai pu éventuellement connaître. Mais très vite, c'est devenu un véritable roman, quoi.
Ah oui, oui. Et c'était vraiment un très beau roman. Je sais que certaines l'ont beaucoup aimé. L'île aux mortels. Alors là, l'île aux mortels, c'était un défi encore, Raymond, parce que c'était le roman chinois, mais avec la texture et, du roman chinois.
Oui, c'est-à-dire que j'avais... je l'avais déjà expliqué, je ne connais pas le chinois, je ne suis jamais allé en Chine. Mais dans les années 80, quand on a commencé à traduire pas mal de choses sur la littérature chinoise, j'ai été amené à lire des romans, des nouvelles, des poèmes chinois en traduction. Et puis, inévitablement, j'ai été amené à lire des livres sur la civilisation chinoise, sur l'histoire de la Chine. Enfin, ça a fini par former une bibliothèque à peu près de 5 mètres linéaires chez moi de bouquins sur la Chine. Et le roman est né de ces lectures. C'est-à-dire que je ne me suis pas documenté pour l'écrire. C'est après avoir lu tout ça que j'ai eu l'idée de ce roman. Mais en l'écrivant, comme sont écrits les romans d'aventure chinois, c'est-à-dire en privilégiant l'action, avec les personnages traditionnels de la littérature chinoise, bandits, faux moines, revenants, etc., mélangeant sur tout ce qui est important les genres, ce qui n'est pas le cas de la littérature française, c'est-à-dire que les Chinois mélangent allègrement le fantastique, le surnaturel, le réalisme, l'érotisme, etc. Et donc, ça a donné L'île aux immortels.
C'est un magnifique roman d'aventure. Alors, ce que j'aime bien dans ce roman, L'île aux immortels, c'est le fait que se côtoient des personnages, comme tu dis tout de suite, des personnages bien, bien réels, bien dans leur époque, bien dans l'action, et puis des personnages un peu fantastiques, fantasmagoriques. Enfin, moi, j'aime bien ça. C'est vraiment la littérature chinoise.
Oui, et on peut... d'ailleurs, j'avais envoyé le livre à l'ambassade de Chine. Je me suis dit, on ne sait jamais, il y a 1 milliard 300 millions de lecteurs potentiels. Des fois qu'ils aient envie de le traduire. Bon, je n'ai pas eu de résultat, mais enfin, on ne sait jamais.
Ah bon, il faudra s'intéresser à la question.
Bah, oui, pourquoi pas. Mais je pense que j'ai voulu surtout ne pas l'écrire comme certains occidentaux écrivent sur la Chine. C'est-à-dire avec des dizaines de pages sur la civilisation chinoise, voire sur la cuisine chinoise. On ne trouve pas ça dans la littérature authentique. On privilégie l'action, l'aventure, etc. Mais ça se passe dans un contexte historique précis.
Il y avait une très belle couverture.
Oui, oui, oui. Que j'ai emprunté une gravure que j'avais chez moi, tout simplement, oui.
Non, c'était une oui, très belle couverture. Alors, Raymond Hiss, il n'est pas à, à un défi près. Bon, il a fait plein de choses, il a beaucoup participé à rédiger, à écrire des nouvelles dans des revues, y compris au Canada, etc. On en reparlera un petit peu dans le courant de l'émission. Mais ce nouveau roman, alors je dirais que c'est un roman labyrinthique. Et j'invente rien, puisque sur la couverture, on voit une sorte de labyrinthe et deux cerises, hein, c'est bien ça. Et ce roman s'appelle Le Grand Jeu. Alors, c'est un roman tout à fait traditionnel, c'est l'histoire de trois personnages qui ont des vies un peu parallèles, comme ça. Mais la caractéristique de ce roman, c'est que tu nous donnes des rendez-vous et tu nous donnes des choix. D'ailleurs, on lira tout à l'heure un extrait, Christine nous lira un extrait, on voit qu'on a le choix d'aller à un endroit ou à un autre du roman pour continuer la lecture.
Oui, c'est-à-dire qu'après avoir écrit des romans avec une structure relativement linéaire, bon, j'avais déjà depuis longtemps l'idée d'écrire un roman qui ne se lirait pas de la première à la dernière page. Et bon, il me restait à trouver un thème, donc j'ai choisi celui-ci. Alors je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un, comme ça existe déjà d'ailleurs, d'un démarquage ou d'une novélisation de jeux vidéo. On ne demande pas au lecteur de s'identifier à des personnages, etc. Mais simplement, il intervient à un certain moment dans l'action. Et en fonction de ses choix, eh bien, on l'emmène dans une voie plutôt qu'à une autre. Et c'est en fait l'histoire de trois personnages en cinq scénarios différents. Dont le déclenchement dépend d'événements fortuits induits par des personnages secondaires, qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de l'histoire. C'est une construction assez particulière, et c'est le lecteur qui choisit.
Alors, on va prendre un exemple. Voilà, j'ai demandé à Christine de lire. Voilà, nous sommes le mardi 28 mars à 9h30. Alors, ce roman se déroule sur...
Une douzaine d'années.
Alors dans des lieux très différents.
Alors la chronologie au départ, bon, ça n'a pas une très grande importance, mais je l'ai fait démarrer en 84 à cause d'une allusion à un film de Romer qui est sorti cette année-là, qui ne joue plus aucun rôle d'ailleurs dans l'histoire après. Et du coup, plutôt que de dire que les épisodes suivants se passent 12 ans après, etc., j'ai mis des dates et même des heures précises. Je trouve que ça paraît beaucoup plus vivant, plus concret et plus crédible en même temps.
Alors, on va voir cette construction. On va en avoir un exemple. Christine, si tu veux bien.
Mardi 28 mars, 9h30 à Paris. À son réveil, Véronique Grandidier n'avait pu s'empêcher d'ouvrir la porte de son armoire pour contempler le superbe manteau que sa mère lui avait offert la veille. Son patron venait de l'augmenter. Il lui devait bien ça. Elle était payée comme secrétaire alors qu'elle assurait les relations avec la presse tout en maternant les écrivains. « Cette couleur te va très bien, tu devrais le mettre pour jouer dans le métro », avait-elle dit à sa fille. Véronique hésita longuement. Elle avait peur de le salir. Voilà une fille précautionneuse, sa mère doit être comblée, au fait... Ne l'avons-nous pas déjà rencontré quelque part? Mais qu'importe, restons avec sa fille, toujours hésitante devant sa garde-robe. À sa place, que feriez-vous? Mettriez-vous ce manteau rouge? Dans ce cas, poursuivez votre lecture. Sinon, abordez deux femmes dans le même bateau.
Voilà, donc on a le choix. Si on est d'accord pour mettre le manteau ou pas, on va... On tourne la page suivante où on va à un chapitre qui s'appelle « Deux femmes dans le même bateau ».
Donc on vous envoie 15 ou 50 pages plus loin pour une autre branche de l'histoire. Et cet aspect anodin, le manteau rouge ou pas, va faire que le personnage principal qui est en visite à Paris à ce moment-là, et qui, pour des raisons qu'on explique au début du roman, est allergique à la couleur rouge, selon le cas, va s'attarder à écouter la clarinettiste. Et dans ce cas-là, il va rater un rendez-vous, enfin, il va rater plutôt, il ne va pas réussir à rencontrer le deuxième personnage, Muriel, et ça influera grandement sur sa destinée. Et dans l'autre cas, il va passer devant la clarinettiste, et il arrivera à temps, dans une brasserie du boulevard Saint-Michel, où il rencontrera Muriel. Et ça va changer complètement la vie de ce deuxième personnage.
C'est là qu'on voit que les hasards de la vie font parfois des grands bouleversements dans nos vies.
Oui, alors
il suffit d'un manteau rouge pour changer la vie de.
Oui, c'est-à-dire que les Bon, on peut l'appliquer à sa vie personnelle. Qu'est-ce qui serait passé si le jour-là, j'étais passé à cet endroit plutôt qu'un autre ? C'est des remarques tout à fait banales. Mais là, c'est la base même de la construction du roman. Et les personnages comme le Véronique, la clarinettiste, on la retrouvera tout au long. Les trois personnages principaux, pas Laurent dans les pattes, mais enfin, la retrouveront tout au long du roman de manière assez... ce sont des histoires assez cruelles quand même, finalement, quand on réfléchit. Et elle apparaîtra quelquefois à la fin, sans qu'ils les connaissent. Et les personnages ne la connaissent pas, c'est-à-dire que tous ces personnages secondaires qui interviennent dans leur vie, ils ne les connaissent pas. Et pourtant, leur choix aura un impact décisif sur leur destinée, quoi.
Alors maintenant, on peut se poser la question, comment construire un tel roman ? Ça, parce que il faut que ça reste, et ça reste cohérent, moi qui l'ai lu, je peux vous garantir que ça reste cohérent. On lit toutes les lignes, ou pratiquement, si on veut, on peut lire, enfin, on peut le lire dans la foulée, comme on peut sauter, enfin bon, il y a certains choix qui sont possibles, mais... Il y a l'amusement et le côté intrigant quoi pour le lecteur, mais l'écrivain, comment s'arrange-t-il pour que tout ça reste cohérent ?
Ben, ça a été la plus grosse difficulté, parce que le fond du roman, finalement, c'est la vie quotidienne, c'est l'histoire de trois personnages, trois jeunes gens, qui se rencontrent ou ne se rencontrent pas, se marient ou ne se marient pas, on est dans la vie quotidienne, et qui se retrouvent ou ne se retrouvent pas 12 ans plus tard. Par contre, pour organiser ces structures, j'ai dû faire un algorithme, puisqu'à certains moments, lorsqu'il y a des aiguillages du style « Est-ce que Véronique met sa robe rouge ou pas sa robe rouge ?»« Si oui, on va à tel endroit, sinon on va à tel endroit, et plus loin, on a encore un autre aiguillage du même genre. » Et ça détermine l'échelonnement de chacune des histoires. Donc c'est quelque chose qui est très, très structuré. On n'a pas droit à l'erreur, il ne faut pas qu'il y ait des incohérences d'un récit à l'autre. Et je sais que je l'ai écrit en plusieurs fois, et la dernière fois j'ai rajouté un épisode, parce que ça ne suffisait pas, c'était un peu juste, et j'ai dû revoir entièrement l'organigramme pour assurer la cohérence de l'ensemble.
Oui, donc, à chaque fois, c'est un arbre de décision, comme on disait, hein, il faut absolument trouver le bon choix. Et chaque chapitre se retrouve sur une des branches de l'arbre de décision
Oui, c'est-à-dire que c'est même plus compliqué que ça, c'est-à-dire que lorsqu'on va, par exemple, sur une voie du roman, ça peut aller jusqu'à la fin de l'épisode, ou bien il peut y avoir de nouveau un aiguillage, un autre événement qui vient. Ça forme un système un petit peu arborescent.
Tout à fait.
Enfin, je rassure les lecteurs, il ne s'agit pas d'un roman expérimental ou technique. La technique, elle est sous-jacente, on ne la voit pas.
Mais ça reste un roman divertissant, de rapport entre les gens, de rapport humain, de la vie quotidienne, et puis les petits événements qui parfois font peut-être basculer la vie des individus que nous sommes. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est une histoire assez... Je m'en suis aperçu à la fin, c'est une histoire assez cruelle quand même, parce que les petits grains de sable qui se glissent dans la vie des gens, par hasard, les envoient dans des voies qui sont quelquefois...
C'est peut-être la vie qui est comme ça pour tout le monde, non ?
Oui, bien sûr, oui. Mais enfin là, bon, c'est quand même forcé, parce qu'on a le personnage de Jeanne, par exemple, qui au début a des velléités, se dessine quasiment à être prof d'université, et qui, à la suite de différentes circonstances, se retrouve à faire des ménages, ce qui est, est tout à fait honorable, mais enfin, moins rémunérateur, certainement.
Ça arrive, bien sûr.
Oui,
c'est un roman quand même de notre époque, de notre société, qui décrit cette société dans laquelle on vit. Et le fait de ces aiguillages, de ces choix, le rend plus, comment dirais-je, vivant, plus... On a l'impression de découvrir, quoi, hein, d'aller de découverte en découverte.
Oui, et puis... on peut dire que c'est des histoires de mondes parallèles. Ce sont cinq scénarios, cinq mondes parallèles. C'est pour ça qu'on n'est pas très loin non plus des littératures de l'imaginaire, bien qu'il n'y ait aucune référence au fantastique ou à la science-fiction, ça c'est clair. Et en même temps, mais ça je m'en suis aperçu après l'avoir écrit, il y a une certaine porosité entre les différentes histoires. Et on n'a pas la même vision d'un épisode selon l'ordre dans lequel on l'a lu. Par exemple, dans un des épisodes où les deux personnages féminins, Jeanne et Muriel, se retrouvent après toute une série d'aventures. À la fin, Jeanne, qui est un petit garçon, le petit garçon est en train de lire une histoire de pirate. Et ça, la séquence se termine comme ça. On ne voit pas trop l'intérêt, ça paraît banal et sans effet. Par contre, si on a lu au départ, si on a commencé par l'épisode, un autre épisode où Pierre est devenu écrivain et écrit des histoires de pirates, ça prend un tout autre relief. Donc il y a une porosité entre les séquences. Il y a des constantes également, qui est la présence de la marine, des bateaux, des histoires maritimes. Pierre, lorsqu'il devient écrivain, écrit des histoires de pirates, de marine, etc. Et lorsqu'il échoue, ben, il vit un peu en sous-régime. Mais néanmoins, il s'intéresse quand même, il fabrique des maquettes de bateaux. Il y a la présence de l'Espagne aussi, qui est fortement présente dans chacun des récits. Et ce qui donne une certaine porosité aux différents épisodes.
Mais est-ce que ces références permanentes, est-ce que c'est voulu ou est-ce que ça vient comme ça dans l'écriture de ce qui se passe autour du personnage?
Ben c'est l'épisode que je... L'histoire du gosse qui lit l'histoire de pirate, c'était relativement involontaire. Je me suis aperçu après que effectivement c'était bon parce que ça faisait des interférences avec un autre récit. Mais les autres non, ça vient c'est quand même construit quoi. C'est un puzzle quand même dans lequel le fait de mettre une pièce de travers ou de l'enlever casse tout. Donc il faut pas, je pense pas qu'il y en ait qu'il y ait des discordances à certains moments, sinon ça casse l'histoire quoi.
Combien de temps pour écrire un roman comme celui-là?
Bah, je m'y suis pris en plusieurs fois, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'avais rajouté un épisode en dernier. Oh, c'est toujours un an d'écriture, sachant que je ne travaille pas à plein temps sur l'écriture. Les autres, c'est pareil, il faut quand même l'écrire une première fois, faire un premier jet, le laisser au fond d'un tiroir pendant quelques mois, le reprendre, on voit tout de suite les défauts, on voit les insuffisances, et il ne faut pas se précipiter avant de l'envoyer à un éditeur. Il faut quand même le laisser reposer un moment, le reprendre, rajouter des séquences, etc.
Et vous avez écrit tous les...
Christine Ninger, oui, je t'en prie,
vous avez écrit tous les récits dans le même temps ou chaque récit était écrit à part? Comment ça s'est passé, l'écriture?
Non, je les ai écrits tous en même temps, c'est-à-dire que j'ai pris à chacun des aiguillages. J'ai écrit une séquence et ensuite l'autre, je n'ai pas écrit, sauf une séquence qui est très, très linéaire et très courte. Les autres, je les ai imbriquées. Parce que justement, pour pouvoir voir les interférences qu'il y avait entre plusieurs récits, il fallait que je les écrive un petit peu en parallèle, quoi. C'est pas cinq nouvelles juxtaposées, c'est une seule histoire quand même, une seule structure.
Ça fait comme un patchwork, en fait.
Alors, on peut encore avoir un exemple, là. Tu peux nous lire, Christine, voilà. Je passe le livre à Christine, et elle va nous lire encore un exemple d'un aiguillage comme ça, là. Et où l'écrivain, l'auteur, fait appel à un choix, et vous demande, chers amis, lecteurs, de choisir.
À qui sont destinés ces cadeaux et cette usine en Espagne ? Que vient faire ce couple dans notre histoire? Retrouvons-le quelques heures plus tard. Philippe et Alice Desforges descendirent du taxi. Pendant que son mari réglait la course, Alice s'occupait des cadeaux. Un autobus arrivant sur ses entrefaites klaxonna, car le véhicule était stationné en deuxième file. Le chauffeur démarra rapidement et disparut au carrefour. Philippe Desforges se retourna vers sa femme. « Où sont les cadeaux? Il manque... » Qu'a-t-elle oublié dans le taxi? Le livre ou la corbeille de fleurs? À vous d'en décider, moi, je m'en lave les mains. Cela n'a aucune importance, me direz-vous, je n'en suis pas certain. Alors réfléchissez. Alice a oublié le livre sur le siège arrière. Dans ce cas, préparez-vous à aborder deux femmes dans le même bateau. Peut-être a-t-elle laissé repartir le taxi avec la corbeille de fleurs dans son coffre? Dans ce cas, poursuivez votre lecture.
Voilà, une fois encore, on a fait appel au lecteur à ce qu'il en pense, à son goût.
Et puis lui-même ne sait pas où on veut l'envoyer. Oui, quoi. Il choisit en aveugle.
Et l'écrivain, lui, il dit « je m'en lave les mains
hein. ». Je m'en lave les mains, pas complètement, oui, c'est au lecteur de choisir. Alors selon son choix, bah, il fera le malheur ou le bonheur, en l'occurrence de Muriel, dans cette affaire.
Et les personnages t'échappent là parce que tu le dis bien, je m'en lave les mains. Maintenant, c'est à vous de choisir.
Oui, bien sûr.
Faites donc le bonheur ou le malheur de ces jeunes femmes.
Ça donne l'illusion que le lecteur est maître du récit. Il est dans une certaine limite. Il peut lire que deux histoires sur cinq. Si les autres ne lui plaisent pas, si ça lui paraît. Et alors, ces personnages qui sont cités dans l'affaire, les gens qui se rendent en visite, Alice et Philippe Desforges, on les retrouvera, c'est ceux qui sont liés à Muriel, et on les retrouvera à plusieurs reprises. Alors, il y a des scènes qui... la scène de la visite de ce couple à Muriel, elle se reproduit deux ou trois fois. Et bon, il y avait danger d'écrire des scènes répétitives dont je les ai écrites chaque fois d'une manière différente. C'est-à-dire en direct, comme ici, ou bien rapportées plus tard par Muriel, qui raconte sa fameuse soirée avec ce couple qui est
voilà, elle raconte comment. La même scène,
mais racontée par un personnage différent et avec un éclairage sensiblement différent. Quoi.
Alors, à la lecture de ce que vient de nous lire Christine, on peut remarquer aussi que Raymond Hisse, qui a écrit ce livre, Le Grand Jeu, n'a pas oublié le style et l'écriture, parce que le style est agréable, le style est vif, spontané. Enfin, il y a quand même une qualité d'écrivain. Ce n'est pas simplement un exercice, c'est aussi la qualité de l'écrivain qui est derrière.
Oui, Christine. On sent la plume, on sent le tissu qui fait cette trame de l'écriture. Enfin, c'est très prenant et on voit vraiment se délier sous les yeux cette histoire avec son style à elle, quoi. Et c'est vrai que les différents virages sont toujours des moments où l'écrivain redonne en même temps de l'énergie et donne du dynamisme à son écriture. Et c'est très agréable en tant que lecteur.
Alors, on va continuer. Je vous propose une petite pause musicale. On reparlera aussi des autres aventures de Raymond Hisse parce que, et comme ça, il nous prépare des petites choses toujours sensationnelles. Allez, une pause musicale. Un monsieur qui... Oh, ça fait longtemps qu'il nous chante ses ballades, ses chansons. C'est Pierre Maraval. Pierre Maraval qui bourlingue un peu partout. Eh bien, figurez-vous que je crois que c'est le 20 avril. Il posera son havresac dans notre studio. Il va nous faire un petit coucou. Allez, on écoute Pierre Maraval, L'Absente.
C'était un jour de chance, au carrefour des faits, que tu m'es apparu, comme tombé du ciel. Tu m'attendais assise, les oreilles dressées, et de mémoire de chien, c'était toi la plus belle. En un clin d'œil, sans crier gare, t'étais déjà sur mes talons. C'était le début de l'histoire. D'une clocharde et d'un vagabond. Et des côtes bretonnes aux forêts d'Allemagne, de la douce Provence au soleil d'Italie. Les années sont passées à courir la campagne sur les routes de France, du nord jusqu'au midi. Tu étais de tous mes voyages. Tissait nos souvenirs. Je ne voyais pas que cet ouvrage brûlait doucement notre avenir. On a vécu des jours de fête, des nuits de faste et de lumière. On a vécu la vie précaire et l'errance des troubadours. La solitude et la défaite, ma tendresse des mauvais jours. J'entends encore les notes de cette mélodie, elle aura pour toujours le parfum du malheur. Tu as fermé les yeux sur nous et sur la vie, l'aiguille qui t'emporta, je l'ai prise en plein cœur. Le silence remplit l'espace, c'était déjà le temps d'après. Déjà l'absence faisait sa place dans la mémoire et les regrets. Quand je te reverrai baignant dans la lumière, venir à ma rencontre dans une prairie d'argent, je saurai que ma vie a franchi la frontière, qu'elle a déjà rejoint l'autre rive du j'attends, en attendant que ce jour vienne. Dans mes rêves, je t'aperçois, tu cours loin à perdre haleine. Attends, attends, je pars avec toi.
Pierre Maraval, qui dans les années, fin des années 60, avait connu le succès, et puis le showbiz, eh bien, lui a fait peur. Il a pris son sac à dos et il est parti chanter comme ça ses petites chansons, ses petites balades, dans des petits villages, des petits coins un peu partout. Ah, c'est bien, un poète. Revenons à notre écrivain du jour, Raymond Hisse, je vous le disais en le présentant, c'est quelqu'un qui se lance des défis, qui n'a pas peur, et puis qui réalise des choses extraordinaires. Il écrit des romans chinois, comme un chinois. Il n'a pas les yeux bridés, je vous le garantis. Et puis, mais on retrouve toute la verve des romans chinois. Il écrit des romans d'atmosphère, et là, il a écrit un roman choral.
Je vais appeler ça un roman aléatoire.
Aléatoire, oui. Voilà. Un roman aléatoire. Et dedans, il aborde quand même un sujet important pour les écrivains, c'est la recherche de l'éditeur. N'est-ce pas? C'est dur hein, pour l'écrivain.
Oui, bah là pour Pierre, ça a été relativement facile. Dans une séquence et dans une autre, il s'est fait fouler.
Il y a une séquence, suivant que vous lisez, comment vous choisissez vos séquences, hein, puisque c'est vous qui choisissez les séquences, amis lecteurs, eh bien, Pierre va avoir la chance d'être édité, ou Pierre va se faire blackbouler. C'est ça?
C'est ça, exactement. Hein, oui. Donc on va lire la séquence positive.
Salut. Allez, lisons la séquence où Pierre se fait accepter par l'éditeur.
Début mars, Pierre reçut un courrier des éditions Traversières. L'éditeur l'invitait à le rencontrer à Paris sans indiquer clairement si son roman était accepté. Le jeune homme hésita quelques jours avant de téléphoner. La secrétaire au bout du fil réagit au quart de tour. L'auteur du Galion maudit, mais le directeur vous attend avec impatience. Il s'étonne que vous n'ayez pas appelé plus tôt. Il obtint un rendez-vous le surlendemain, un mercredi, en fin d'après-midi. À Alloncourt, personne n'était au courant de son voyage. Il n'avait pas cours ce jour-là, et son absence passerait inaperçue. Pierre était venu une seule fois à Paris, avec l'Alliance française quand il était gamin. Aujourd'hui, il ne verrait de la capitale que les couloirs du métro pour reprendre le train après son rendez-vous. Pierre avait mis son costume et sa plus belle cravate pour rencontrer celui qui accepterait peut-être de publier cette histoire, bâclée en 2 mois, à laquelle il n'accordait aucune valeur. Il avait fait ça à cause de la pluie et parce que le personnage du marin l'amusait. Et aujourd'hui, les éditions Traversières attendaient l'auteur du Galion maudit. Il avait toujours l'impression d'usurper un rôle, lorsque la secrétaire dont il reconnut la voix le mit en présence d'un gros bonhomme mal coiffé, en bras de chemise, qui lui fait signe de s'asseoir. Pierre reconnut son manuscrit ouvert sur le bureau. « Ça ne va pas du tout, c'est nul là !» rugit-il en désignant les dernières pages. C'était ce qu'il craignait. Ignorant tout des mœurs éditoriales, il n'imaginait pas cependant qu'on puisse agir avec autant de sadisme, lui faire traverser toute la France pour lui signifier un refus. « Alors mon texte n'est pas bon ?» dit-il en se levant. « Rasseyez-vous, qui vous dit cela? La fin seule est mauvaise. Enfin, jeune homme, réfléchissez un peu. On ne tue pas son héros à la fin du roman, pas aux éditions Traversières. Et pourquoi ?» Pour pouvoir écrire une suite. Pierre, abasourdi, se laissa retomber au fond de son fauteuil. Delsem poursuivit. Sitôt rentré chez vous, vous me faites remonter votre part d'eau sur sa coque de noix, et en route pour de nouvelles aventures. En attendant, vous allez me faire le plaisir de le ressusciter. Madame Grandidier va vous laisser un coin de son bureau, et dans une demi-heure, vous me signerez le contrat. Ah, malheureusement, je ne peux pas vous verser d'avaloir. Nicole ! La secrétaire entra et Pierre se leva pour la suivre. « Et si on appelait ça le vaisseau fantôme, c'est plus accrocheur ?»« Non, monsieur, non, ce titre est pris depuis longtemps. »« Ah bon, si vous le dites ?» Puis il referma la porte sur eux. Pierre, son manuscrit sous les yeux, essayait d'échapper au regard ironique de la secrétaire. Il n'était pas encore sûr d'avoir compris ce qui lui arrivait. Mais à sa grande surprise, elle s'adressa à lui sur un ton plein de déférence. « Monsieur, si je peux me permettre de vous donner un conseil, il vous suffira de modifier ce passage. » Elle fit le tour de la table et se pencha par-dessus son épaule. « Au lieu de trois vaisseaux espagnols qui l'assaillent, vous n'en mettez qu'un. Et le boulet qui le frappe en pleine poitrine, vous le déviez sur un des matelots. Il en restera bien assez pour l'épisode suivant. » « Mais cette suite, c'est sérieux ?»« Bien sûr, Monsieur Delsem lance une nouvelle collection de romans d'aventure. » Grand large, et votre ouvrage inaugurera la série. Mais il a l'intention d'en sortir au moins 4 par an, et il attend votre second manuscrit avant l'été. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter après ça? Avant de mourir, le capitaine Prado venait bien chercher quelque chose à la Jamaïque. Oui, un trésor dont l'existence lui avait été révélée par un prisonnier à l'île de la Tortue. Eh bien, voilà le sujet du deuxième épisode. Il ne vous reste plus qu'à l'écrire. Cette secrétaire semblait connaître son roman mieux que son patron. Du moins n'écorchait-elle pas le nom du héros. Elle parcourut le manuscrit avec Pierre. Des passages soulignés en rouge signalaient des erreurs de syntaxe, des répétitions ou des fautes de frappe qu'il corrigea sur le champ. Enfin, elle lui fit signer son contrat. Dans le train qui le ramenait chez lui, il le relut pour s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Ou qu'on ne s'était pas moqué de lui. Parmi toutes les clauses, il retint celle qui lui attribuait 8% du prix hors taxe sur chaque volume. Il calcula rapidement combien il devait s'en vendre pour percevoir l'équivalent de son salaire annuel. Il ne voyait pas l'éditeur envisager un tel tirage, tant ce chiffre lui parut déraisonnable et il n'y pensa plus.
Merci Christine. C'est très révélateur cette séquence. Pierre tombe des nues. Quoi. Enfin, en fait, quand on a lu la séquence précédente, on sait qu'il a écrit ce bouquin un petit peu de chic, quoi. Hein.
Oui, un petit peu par des œuvres.
Un prof qui était.
Alors, il y a une. L'événement qu'il enchaîne, c'est sa séquence de théâtre avec les élèves, etc., qui lui donne l'idée d'écrire une histoire de marin, etc. Bon, il écrit ça à Saint-Malo, il pleut.
Alencourt n'existe pas.
Alencourt n'existe pas. Non, je veux pas d'ennui avec des habitants d'un village réel. Donc celui-là, je l'ai inventé. Vous pouvez regarder, ça n'existe pas. Et, il était prof de collège dans un village à Alencourt. Donc il a envoyé ce manuscrit. Et les éditions traversières sont des éditions assez particulières. Le patron de cette maison d'édition s'appelle Delsem. Entre parenthèses, c'est le nom d'un écrivain belge de science-fiction qui est décédé récemment. Alors je me suis dit, un petit clin d'œil, je vais l'appeler Delsem. Mais surtout, il a l'habitude de faire lire les manuscrits par sa secrétaire. Ah non, c'est des mœurs assez bizarres. Mais il dit, bon, après tout, je publie des romans populaires. Donc si ma secrétaire les aime, les autres les aiment aussi. Et ça marche bien, Nicole Grandidier est chargée de lire les manuscrits. Et Nicole Grandidier, c'est la mère de Véronique, notre fameuse clarinettiste qu'on a vue tout à l'heure. Donc tous ces gens, on les retrouve à certains moments. Et là, Pierre a eu de la chance... parce que un pianiste n'a pas mangé d'huître.
Alors oui. Il y a
l'histoire du pianiste mangeur d'huître la fille de Nicole, donc de la secrétaire, Véronique passe son concours d'entrée au conservatoire. Donc elle doit jouer une sonate de Brahms. Elle a besoin donc d'un accompagnateur qui est un pianiste qu'elle paye pour ça. Et ce pianiste, quelques jours avant, a rendez-vous au restaurant avec une amie. Et cette amie, c'est Alice Desforges, la dame qu'on a déjà rencontrée tout à l'heure, la femme de l'industriel.
Voilà, avec le manteau rouge.
Le manteau rouge, c'est Véronique.
C'est Véronique.
Pardon. Il y a de quoi s'y perdre. Dans un cas de figure, Alice arrive à son rendez-vous.
Oui.
Et comme elle sait que son ami pianiste est gourmand, elle le dissuade de manger des huîtres, ce qui fait qu'il peut être à pied d'œuvre pour accompagner Véronique Grandidier. Donc sa mère peut lire les manuscrits, et comme elle est très scrupuleuse, elle aime les lire jusqu'à la fin, elle retient celui de Pierre. Et dans une autre séquence, elle ne peut pas venir à son rendez-vous parce qu'elle doit aller chercher son mari qui vient d'arriver d'Espagne, où il a conclu un contrat avec un industriel espagnol. Donc on retrouve l'histoire de tout à l'heure. À ce moment-là, guidé par sa gourmandise, le pianiste mange des huîtres. Entre parenthèses, c'est le seul élément autobiographique de l'histoire. Une indigestion suite à l'ingestion d'huîtres. Donc je ne dirai pas où pour ne pas faire de tort à un restaurateur nancéen. Donc, il est malade, d'où ce qui fait que l'épreuve d'admission de Véronique doit être différée.
Ouais.
Sa mère doit demander un congé. Et à ce moment-là, ça contrarie beaucoup l'éditeur, qui doit faire appel à une vacataire. Mmh. Et cette vacataire, elle a une maîtrise de lettres. Mmh. Et l'histoire de pirates, de fantômes, et choses de ce genre-là, ça la débecte considérablement. Donc, elle lit ça à la hache. Elle envoie des lettres refus à l'appel, dont... dans le manuscrit de Pierre.
De Pierre, oui.
Et qui se retrouve à Loncourt. Alors la suite est horrible. Je ne sais pas si on ose en parler. Il épouse la fille de la boulangère. Là, c'est affreux. Oui,
et puis là, il sombre dans une espèce de mélancolie.
Oui.
Mais, alors, chers amis, et c'est pas compliqué, hein, surtout. Ne croyez pas que c'est un roman compliqué. Vous suivez cette vie de ces gens. Ce sont des vies ordinaires. Après tout, avoir une indigestion après avoir mangé des huîtres, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas?
Vraiment, hein. Ça arrive, oui, bien sûr.
Et cette vie, c'est le roman reste très, 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 comment dirais-je, j'allais dire simple, c'est pas simple, non, mais qui correspond à des vies telles qu'on peut les vivre, et puis les aventures telles qu'on peut les avoir tout autant qu'on est.
Si on prend le déroulement de l'histoire de chacun des personnages, ça paraît très simple, très évident. Quand on voit pourquoi ils sont arrivés dans telle situation plus qu'une autre, effectivement, là, on est aux limites, je dis pas du fantastique, mais presque, quoi, puisqu'il y a des tas de personnages qui ont influé sur leur destin sans qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes et sans qu'ils les connaissent.
Oui, vous venez de dire le mot qui me court dans l'esprit depuis tout à l'heure, destin. Est-ce que c'est des hasards? Est-ce que ce sont des destins qui sont dessinés? Parfois, on se pose la question, parce que c'est un hasard si Véronique met son manteau rouge, ou est-ce que c'est son destin?
Prédestiné. Est-ce que la prédestination...
Oui, alors si on commence à parler du problème de la prédestination, on va...
Là, bon, alors, voilà, tu as ta copie, tu as 3 heures pour rédiger ta dissertation. Non.
Là, il y a le rôle du hasard.
Le rôle du hasard joue beaucoup. Et puis, en fait, il y a aussi, n'oublions pas, le rôle du lecteur qui a le choix à certains moments et qui va orienter cette histoire.
Mais s'il tient absolument que...
Et Raymond, il le redit. Je le redis une nouvelle fois. Raymond le dit. Je m'en lave les mains. Hein. C'est de votre faute. Hein.
Si le lecteur n'a pas envie que Pierre devienne écrivain, il prend une autre voie et puis voilà. Il épousera la fille de la boulangère. Après
tant pis pour Pierre. On fait encore une pause musicale. Allez, je vous propose Monsieur Robillard, Martial. Il sera bientôt le 4 mai sur la scène de la Péniche Niagara. C'est un concert qui sera organisé par RCN, Radio Carim Nancy. On y retrouvera la fine fleur de la chanson française locale. Alors on aura Bill Latour qui nous amènera sur les traces de Félix Leclerc. On aura Marcel Robillard qui nous emmènera retrouver Tonton Georges. Et on aura... pour des poèmes de lui, de Jules Bocarn et bien d'autres, Gilbert Fourny, Élie Chompré, ça sera une soirée extraordinaire. Vous avez tous les renseignements en téléphonant ou en allant sur le site de RCN 90.7 dans l'eau de la Clairefontaine, Marcel Robillard.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. avec le pampreux de la vigne. Un bout de cotillon lui fit, mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai pris avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Plaire à l'ingénue, car à la fontaine, souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent.
Martial Robillard, que l'on adore, qui vient nous voir de temps en temps, pas assez souvent, on aimerait l'avoir plus souvent, dans l'eau de la Clairefontaine, avec ce rythme de bossa nova. Moi, je trouve ça génial. Martial Robillard, qui sera donc en compagnie de Bill Latour, d'André Latour et Gilbert Fournier, ils sont prêts sur la scène de la Péniche Niagara. Ça sera le 4 mai, à partir de 20h, ça sera un concert Radio Caraïbes Nancy. Revenons à Raymond Hiss, qui est venu nous voir aujourd'hui pour nous parler du grand jeu, le grand jeu, ce roman que j'ai appelé labyrinthique, qui laisse le choix à l'auditeur, au lecteur, et l'auditeur que vous allez devenir bientôt le lecteur, qui laisse le choix au lecteur d'orienter le récit. C'est aux éditions Edilivre, et pour le trouver, on va sur Edilivre, on va sur Raymond Hiss.
On peut aller sur rejos.com, www.rejos.com. Vous pouvez lire des extraits de celui-là et des autres également, c'est mon site personnel. Sinon, vous pouvez le commander sur edilivre.com, sur internet, ou il est également, enfin il n'y est pas encore, mais il y sera bientôt sur Amazon, etc. Parce qu'il vient seulement de paraître, mais vous pouvez l'acheter sur edilivre.com ou même chez moi sur rejos.com.
Ah, moi je vous le recommande chaudement, parce que c'est vraiment, c'est l'originalité, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, Le Grand Jeu. Mais tu sais, Christine, tu sais Christine, que Raymond Hiss, eh bien, il a plein de cordes à son arc, et il s'occupe de tas de choses. Déjà, il s'occupe de ses prochains bouquins, et il a également beaucoup de son temps dans le suivi de prix littéraires. Raymond.
Oui, alors je participe à deux prix littéraires actuellement. Un que j'ai organisé avec deux autres personnes, et un prix littéraire qui s'appelle le prix Une Autre Terre, qui existe depuis 2007 et qui récompense... alors là, il s'agit de livres publiés, il ne s'agit pas de manuscrits, qui récompense un ouvrage de science-fiction d'anticipation traitant du développement durable. Donc le premier de ces prix a été décerné déjà à Jean-Marc Ligny, l'année suivante à Claire et Robert Belmas, et le suivant à Andreas Eschbach. Donc on en est à la quatrième édition du prix. Nous sommes un comité d'organisation composé de 8 personnes. Moi je joue le rôle de l'écrivain, les autres sont des techniciens, surtout des ingénieurs du domaine scientifique. Donc nous sollicitons et nous recevons des livres traitant de ce sujet qui nous sont envoyés par des éditeurs. Et cette année, nous avons reçu une quinzaine d'ouvrages à peu près. Et un comité de sélection qui s'est réuni, notre comité de sélection s'est réuni à Paris le 31 mars. Le comité de restreint à 8 personnes avait sélectionné 3 ouvrages. Brut de Dalibor Friou au Seuil, Eternity Incorporated de Raphaël Granier de Cassagnac chez Mnemos, et La Place aux Autres de Philippe Mouche chez Gaïa. Donc, le comité d'organisation avait sélectionné ces trois ouvrages et nous avons réuni donc le jury qui est un jury composé de lecteurs, donc qui sont déplacés à Paris le 31 mars et qui ont choisi un de ces trois ouvrages. Je ne dirai pas lequel parce que la révélation de ce prix doit être faite au cours d'une conférence de presse à Épinal à la fin de ce mois.
Dans le cadre d'une manifestation
Des Imaginales d'Épinal, bien sûr.
Dans le cadre des Imaginales.
Oui,
hein.
Le prix organisé en partenariat avec les Imaginales. Mmh. Donc les Imaginales qui se déroulent, donc c'est le plus grand festival de littérature de l'imaginaire actuellement, et il se déroule dans au cours du dernier week-end de mai à Épinal. Et c'est au cours de ce festival que sera décerné le prix, donc le prix Une Autre Terre. Et dès à présent, le prix 2013 est en route, donc on peut nous envoyer des ouvrages édités depuis un an, qui traitent de science-fiction, qui traitent du développement durable.
Alors, chers amis, nous reparlerons de ces Imaginales d'Épinal sur notre antenne, dans nos émissions, dans diverses émissions. Nous essaierons d'ailleurs d'en savoir un peu plus, nous essaierons de connaître en temps voulu le bénéficiaire du prix. Le prix, comment ?
Le prix Une Autre Terre,
simplement. Une Autre Terre, voilà. Le prix Une Autre Terre. Et puis, de l'avoir au micro, n'est-ce pas Christine ?
Oui.
Hein, on essaiera. Hein. Et puis, on reverra Raymond à ce moment-là. Alors, ça, c'est vraiment une passion pour toi de suivre ces gens qui font œuvre quand même publique, hein, de nous alerter, etc. Hein, c'est une forme d'écologie.
Oui, bien sûr. Oui. Il est difficile de trouver un ouvrage qui traite spécifiquement du développement durable. Enfin, il faut l'étendre plutôt à des problèmes, disons, d'environnement. Mmh. Hein. Mmh. D'environnement au sens large du terme, c'est pas seulement le réchauffement climatique ou choses de ce genre. Dans les ouvrages que j'ai cités, ils traitent de différents sujets. Mmh. Il y a un bouquin de science-fiction pure, un autre qui est plus contemporain, mais qui a un rapport plus ou moins direct avec les problèmes d'environnement. Et on envisage aussi, puisque les organisateurs de ce prix sont essentiellement des scientifiques, on envisage aussi de mettre des écrivains en relation avec des scientifiques, non pas pour leur donner des formations, mais pour leur donner éventuellement des tuyaux pour, puisque la science-fiction, dans le mot science-fiction, il y a science, et quelquefois, les écrivains ont besoin d'un substrat scientifique pour écrire leur livre. Donc on envisage aussi de mettre les écrivains en relation avec des scientifiques qui traitent de leurs problèmes.
Alors donc, c'est vraiment un comité constitué de scientifiques et de littéraires, puisque tu étais le représentant littéraire des écrivains, et puis qui a proposé à des lecteurs de faire un choix. Ensuite, ça, c'est vraiment... En plus, c'est un prix de lecteur. Quoi,
oui, c'est un prix, c'est ce qu'il faut important de souligner. Hein. Bon, on est obligé de faire une présélection, parce que...
Bien sûr.
Il faut voir que les lecteurs sont quand même sont amenés à acheter et lire les trois ouvrages qu'on leur livre. Et ce sont des lecteurs qui se sont déclarés, donc sur... pour en savoir plus, il faut aller sur le site de l'association. Donc, c'est www.uneautreterre.fr, uneautreterre en un seul mot.fr. Et si certains sont intéressés pour devenir lecteurs pour le prix 2013, ils peuvent déjà s'inscrire dès à présent. Donc, c'est des gens qui venaient de toute la France, même d'Angleterre.
C'est bien.
Donc, on était une vingtaine environ, qui font l'effort de se déplacer déjà, et d'avoir lu, donc acheté, lu ces trois ouvrages. Mais c'est un prix de lecteur. C'est pas,
Christine, je suis sûr que ça t'intéresse.
Oui, tout à fait. J'ai les yeux qui pétillent.
C'est passionnant. Mais on ira avant aux Imaginales, on ira faire un tour rapide.
Oui, vous rencontrerez tout le monde aux Imaginales.
Tu y seras.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Et puis, bon, as-tu besoin de rappeler aussi que Raymond Ries fait partie du comité de pilotage de l'association de l'ADIL, hein, l'association des écrivains illustrateurs lorrains, présidée par Charles Lancé, et qui a été une création de notre ami Marcel Cordier. Donc, tu donnes beaucoup de ton temps, mais comment tu arrives à concilier tout ça?
Ah bah je ne travaille plus, ça aide déjà un peu, mais enfin j'avoue quelquefois je vois plus trop bien la différence entre l'époque où je travaillais et maintenant, mais enfin c'est, bon je gère mon temps quand même comme je l'entends, quoi. Oui. La DIL, donc, qui organise entre autres le Festival de Villers au mois de mars chaque année, qui réunit une cinquantaine d'écrivains lorrains.
Qui a été un beau succès.
Qui a été un beau succès cette année également.
Oui. Marie-Christine y était avec tous nos petits micros. Et on a eu des beaux échos de cette manifestation. On peut retrouver d'ailleurs en podcast l'émission que Christine avait fabriqué, consacré à cette manifestation de Villers. Nous saluons nos amis de Villers parce que c'est une belle chose. Bonjour monsieur le maire de Villers. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu nous écris en ce moment ?
En ce moment, je suis sur le livre dont je parlais, le livre d'anticipation.
Oui.
Bon, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai écrit récemment une ou deux nouvelles de science-fiction, dont une va être publiée chez Griffes d'encre. Une nouvelle très courte qui va être publiée dans une anthologie.
Mmh.
Donc j'ai signé le bon à tirer, ça devrait sortir au printemps. Et puis une nouvelle plus ancienne que j'ai proposée à un concours qui est organisé par la revue Galaxy, qui est la revue de science-fiction française. Une revue d'ailleurs qui est d'origine nancéenne, d'ailleurs je faisais partie des gens qui l'avaient créée au départ. Elle a immigré maintenant dans le Nord, mais elle continue à vivre. Et c'est un concours de nouvelles qui avait été organisé en collaboration avec le ministère de la Défense. C'était assez curieux. Sur des problèmes de réchauffement climatique. Donc ils sélectionnaient des nouvelles traitant du réchauffement climatique. Donc j'avais écrit une nouvelle qui était déjà qui avait été écrite une paire d'années mais qui correspondait au thème. Donc j'ai été pris choisi pour le prix. Je devrais avoir ce prix incessamment sous peu et ça donnera lieu avec d'autres lauréats à un numéro spécial de Galaxy. Donc tout ça devrait sortir au printemps. Je pense que on les trouvera aussi les deux l'anthologie de Griffes d'encre et le numéro de Galaxy. On le trouvera aux Imaginales.
Et des romans, disons, comme ce roman labyrinthique, Le Grand Jeu, des romans particuliers, avec une construction particulière, tu vas revenir, tu vas retrouver d'autres formes, tu vas faire quelque chose là ?
Je n'ai rien de plus précis pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai un roman donc en cours de réalisation. Pour le moment, je ne vois pas plus loin, à part mes recueils de nouvelles, quoi.
Et il y aura une suite à tous ces personnages qu'on avait rencontrés à Strasbourg, dans ce superbe roman « Les passantes des quatre saisons ».
Oh, je ne pense pas. Faire du réchauffé, ça me plaît pas trop. Alors, comme le disait Delsem dans le passage de tout à l'heure, il ne faut pas tuer ces personnages parce que ça peut servir pour une suite. Bon, là, ils ne sont pas morts, mais je trouve que l'affaire est bouclée quand on a...
Tu aimes bien découvrir d'autres, défricher, aller voir dans d'autres...
J'aime bien faire d'autres choses, ne pas me répéter.
Christine, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que c'est très très original et je me dis qu'il doit avoir une tête qui fusionne, enfin... doit être pleine d'idées, c'est jamais...
Oui, il a l'air d'aller bien.
Non, ça va. mentalement, ça va.
Oui, ça va.
Mais non, c'est vrai que c'est fascinant.
Je t'avais dit, tu verras aujourd'hui, j'accueille un personnage, quelqu'un d'extraordinaire, Raymond Huys. Je ne m'étais pas trompé.
Non, tu ne t'étais pas trompé.
C'est vraiment quelqu'un qui est à découvrir. Alors, chers amis, surtout, allez découvrir les romans de Raymond Huys. Vous allez donc sur son site, il l'a dit tout à l'heure, vous allez sur le site de Eddy Livre. C'est vraiment... faut le découvrir. Surtout ce grand jeu, ce roman où vous participez à la construction du roman, à la vie. Vous avez le droit de choisir si Pierre sera édité ou pas édité. Vous avez le droit de choisir comme ça. Et le destin va basculer, quoi. Le concert aura lieu, aura pas lieu, enfin, etc., etc. Vous avez le droit de choisir.
Je voudrais dire deux mots sur la Cour de l'imaginaire aussi.
Oui, vas-y. Oui.
Alors, dans les prix littéraires, donc, cette année, j'ai organisé avec deux autres personnes un prix qui s'appelle le prix La Cour de l'imaginaire en partenariat avec un éditeur de Nîmes, qui n'est pas du tout spécialiste dans la science-fiction. Et c'est un concours, cette fois-ci, de manuscrits, enfin plus exactement de tapuscrits. Donc nous avons fait appel à des écrivains, en principe des écrivains débutants, et qui nous ont donc envoyé, on a considéré ça comme un succès, parce qu'on n'était pas très sûr au départ, n'étant pas spécialement connu dans la structure, qui nous ont envoyé une trentaine de manuscrits, qu'on a dépouillés au fur et à mesure. Et le prix, la date limite, c'était le 31 mars. Donc, on est en train de faire la sélection parmi ces manuscrits de l'un d'entre eux qui remportera le prix, donc la Cour de l'imaginaire. Et le prix consistera tout simplement à être édité par les éditions La Cour.
Ah, c'est bien ça.
Donc, et on a trouvé quand même, on hésite entre 4 ou 5, 5 ouvrages actuellement, mais dans le lot, on en trouvera un qui sera certainement très bien. Ce ne sont pas du tout. On a trouvé des choses très médiocres, mais là, on tient quelques. Je ne dis pas des chefs-d'œuvre, il ne faut pas rêver, mais enfin, un ouvrage de très bonne qualité, donc toujours dans la science-fiction, dans l'imaginaire.
Tu nous tiens au courant. On se rencontre assez souvent, tous les deux.
Quand le bouquin sera paru, on doit le donner à l'éditeur au mois de septembre. Et il devrait être prêt, édité pour le mois de janvier. Et là, il faudra qu'on assure aussi la publicité, donc qu'on fasse connaître.
Voilà, faudra venir nous voir.
Et la campagne donc du prix La Cour de l'Imaginaire 2013 est ouverte. Donc les gens qui veulent nous envoyer un manuscrit, vous nous l'envoyez et vous branchez sur le site internet www.lacourdelimaginaire.com. La Cour de l'Imaginaire en un seul mot, sans apostrophe entre l'L et le I. Et vous avez tous les détails sur le règlement du prix, le contrat, etc. Il s'agit d'un contrat d'édition tout à fait classique. Aucune mauvaise surprise de ce point de vue-là.
Eh bien, je te remercie, Raymond, d'être venu nous voir. Raymond Hiss, Le Grand Jeu aux éditions edilivre.com. À ne pas manquer, parce que c'est vraiment très original, n'est-ce pas, Christine?
Oui, c'est savoureux.
Chers amis, l'émission est terminée. On va se quitter en chanson, si vous voulez bien, avec un duo, une jeune femme qui s'appelle Lisa Louise. Des textes d'Éric Mie, c'est vraiment très, très, très bien fait. On rit, on pleure. Et ce duo, Lisa Louise, sera à la Douéra, la magnifique Douéra, dimanche 15 avril à partir de 16h. Alors courez vite, dimanche 15 avril à partir de 16h. Pour écouter Lisa Louise, on écoute ce texte d'Éric Mie, on a gagné.
J'en ai de la buée plein les yeux. Qui aurait cru que ces deux-là se trancheraient le cœur en deux, briseraient leurs rêves en éclats. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient beaux. Parmi les amants d'alentour, c'était eux deux les plus costauds. Ça part en vrille. À quoi ça sert qu'on court encore? L'avenir se recroqueville. Seul le désespoir s'en sort. Tu vois, chérie, finalement, on est toujours à s'engueuler. Mais on sera les plus. On a gagné. Moi, quand une passion s'émiette, je ne sais jamais trop quoi faire. Pleurer Roméo et Juliette ne leur évite pas l'enfer. Tu vois, chérie, finalement, on est toujours à s'engueuler, mais on sera les plus vieux amants. On a gagné.
Lisa Louise, Lisa Louise sera donc en duo avec Maëlle Nesty le 15 avril à 16h à la Douéra. Ne manquez surtout pas ces chansons d'Éric Mie. Eh bien, marque-page est terminé. Je dis au revoir à Raymond Hiss. Au revoir, Raymond.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir, Christine.
Au revoir.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, même heure. On sera là avec Mathieu aussi à la technique. Et on recevra Monsieur Gérald Tenenbaum. Encore un grand moment à venir. Au revoir.
Un couple qui survit en paix. Tu vois, chérie, finalement, on est toujours à s'engueuler. Mais devant les fissures du temps,